Dans la série L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Fugue en mai. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
Radio.
Hein?
Radio.
C'est vrai? De Luxembourg?
Non.
Ah, on n'a pas l'air de passer. Radio de quoi?
Radio de Genève.
Radio Genève?
Oui.
On laisse pas.
Allez, monsieur,
merci, vous êtes très gentil.
C'est bien parce que vous êtes suisse.
Je suis français.
Des barricades, mais c'est qu'il y ait des groupes aussi qui discutent politique, des groupes qui se connaissent politiquement, qui seront après les noyaux des autres manifestations. Et ça, ça se fait pas si on a la rage de dépaver. Non, ça, il faut l'expliquer pour le.
Hey, Denis,
allez faire votre réunion, allez faire votre réunion.
Écoute.
Oh.
Écoute, les résultats passent.
Mais filez-moi la sono, putain, je peux pas faire toutes les barricades sans sono.
Tout le monde écoute.
Hein? Mais non, mais c'est pas le problème, le problème de la barre, de les mecs,
comment c'est la barre.
Il faut des types aux barricades qui sont à côté de la mouffe là-bas, tout autour.
Il y a des barricades à la mouffe.
Est-ce que la population va donner à bouffer aux gardes maintenant? Si la population donne à bouffer aux gardes, c'est terminé les gars. Et là, ça n'est pas. Ça va bien pour moi. Parce que, je m'excuse, c'est peut-être un peu brutal quand je dis ça, mais ça n'est pas, la réponse à trois points, c'est le gouvernement par terre.
Les gens qui ont allumé leur radio, c'est fantastique. Oui,
c'est assez inouï comme climat. Hein.
C'est fantastique.
C'est assez clim... c'est comme...
Si tu veux me demander quelque chose, c'est 2 heures. Hein. Hein, si tu veux me demander quelque chose, je viens parler. Alors là, je parlerai en mon nom personnel.
D'accord. Hein.
C'est bon, je t'ai dit.
La responsabilité, c'est faire pour nous.
Bravo!
Monsieur le président, sache pertinemment que quand il vient d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et que nous n'en sortons pas.
Bravo!
Dans deux heures, si tu veux, on se donne rendez-vous vers Saint-Michel.
D'accord. Hein? On peut descendre par là déjà.
J'ai l'impression que c'est pas. J'ai l'impression que de toute façon, si ça chie, ça chiera partout.
Ah oh, oui,
on voit ici.
Oh. Si il chie, c'est plus con. Hein.
Bon, tu sais, les barricades, il y en a partout. Hein.
Les guitares, les fleurs de Java. Taille-la.
On voudra.
La paix. La Sorbonne aux étudiants.
Les guitares, les fleurs de Java.
Tiens, oh, voulez-vous.
Maintenant, rue Saint-Jacques également, les grenades offensives explosent. Ce n'est qu'un début, toujours continuons le combat au milieu des villes. Elles illuminent tout le boulevard. Il est 2h35 de la nuit. Et brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel.
Saint-Michel. Peut-être même les autopopes entreraient en action, je ne sais pas. C'est rude, maintenant j'aime de l'attaque. C'est très violent. Un plexiglas de voiture vient d'être démoli.
Voyons, ai-je tout, sous-vêtements de rechambre, robe de chambre, chaussettes, chemises, nécessaires de toilette, argent dans la poche. Bon, eh ben, il me reste plus qu'à refermer la valise. Après avoir refermé la valise, il la prend et sort de sa chambre. La maison est silencieuse et sombre, il longe le couloir sans éclairer. Ouvre la porte en évitant de faire le moindre bruit possible. Avant de la refermer, il reste une seconde à regarder l'appartement. À quoi bon ? Et il ferme la porte. Il est 3 heures du matin, l'air est doux. Il monte dans sa voiture et part. Quelle tête ils vont faire ! Et oui, c'est moi qui m'en vais. Ah, Christian, il sera surpris. Lui qui me cassait les pieds pour que je le laisse partir pour Katmandou. C'est du despotisme qu'il disait, alors que la France et l'Europe étaient à feu et à sang, qu'il n'y avait plus de gouvernement, que les universités et les usines étaient arrêtées. Que l'on se bat pour nos libertés individuelles. Toi, père, tu m'empêchais de partir. Pauvre con, avec tes idées toutes faites. En tout cas, tes idées toutes faites en prennent un coup. Et oui, c'est moi. Je me libère du despotisme familial. Moi aussi, j'en ai assez des contraintes dictatoriales d'un fils et d'une femme. Moi aussi, je veux vivre ma vie. Et pourquoi pas ? C'est vous qui m'avez donné ces idées de liberté et de défense individuelle. J'entendais en longueur de journée les droits de la femme à être libérée de la famille, le droit aux jeunes à être libres de leur avenir. Eh bien, vous voyez, vous êtes libres maintenant. Enfin, si l'on veut. Sort de Lyon et prend la direction de la Haute-Savoie. J'espère que je trouverai facilement de l'essence. Il est 8 heures du matin. Je commence par être fatigué. Nous approcherons bientôt de Chamonix, après le lac de Montrion. En m'arrêtant tout à l'heure à Chamonix, je regarderai si je n'ai pas oublié les livres.
Thank you.
journée s'annonce bien, le soleil est chaud. Arrivé à Chamonix, il s'arrête pour prendre un petit déjeuner dans un bar-restaurant. Mais avant de sortir de la voiture, il ouvre sa valise pour voir si les livres y sont. Oui, ils y sont.
Non, 17.
Un petit déjeuner complet, s'il vous plaît. Savez-vous ces journaux ont paru? Non, monsieur, il n'y a que l'humanité. Après avoir pris son petit déjeuner, il reprend la route.
Deux blancs secs.
Voilà le lac de Montrion. Il est grand comme lac, entouré de montagnes. Il y a même des cascades qui descendent de la montagne. C'est peut-être ici l'hôtel. Il arrête sa voiture et rentre dans un chalet qui fait hôtel-restaurant. Il demande une chambre. On lui donne une chambre 14 à l'étage. Un domestique lui porte les bagages. Il ouvre la porte de la chambre. Il dépose des bagages au milieu de la pièce. Voici, monsieur. Anthony hésite un peu pour lui poser la question. Est-ce que vous savez que si c'est dans cet hôtel que monsieur Junier a résidé? Je ne sais pas, monsieur, il y passe tellement de monde. Je voulais dire, monsieur Junier, l'auteur du lac de Montrion. Non, monsieur, je ne sais pas. Et il sort. Anthony hausse les épaules. C'est normal que le nom ne lui dise plus rien. Après son ordre de gloire, son œuvre est tombée dans l'oubli. Pauvre père. Il met la valise sur la table et défait ses bagages. Il range d'abord 5 livres, bien en évidence sur la table de nuit. Couverture NRF, livre usé. Le lac de Montrion, l'au-delà du commun, les illusionnistes, qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis, le plaisir. Les livres sont usés à force d'être lus. Après avoir rangé ses affaires, il prend sa douche. Puis il descend à la salle à manger. La pièce est presque vide. Il s'assoit à une table près de la fenêtre. Un serveur s'approche. Il n'y a pas beaucoup de monde.
C'est normal, monsieur, avec tout ce qui se passe. Et puis nous ne sommes qu'en mai. Vous êtes de Lyon ?
Oui.
Alors à Lyon, c'est comme à Paris, on se bat aussi dans les rues. Les usines sont occupées et les étudiants manifestent.
Anthony sourit.
Oui, un peu. Oh là là, tout ça c'est pas bon pour le commerce. Les prix ont augmenté, les gens n'ont plus de sous. Et en plus on nous annonce un été pluvieux. Est-ce que vous croyez que ça va durer longtemps tout ça?
Je ne sais pas. Anthony aimerait que cette conversation s'arrête. Il voudrait être seul. Pour s'en débarrasser, il commande son déjeuner.
Le tour du lac. Tu vois, père, de ton vivant, je ne cherchais pas à te comprendre. Maintenant que tu es mort, je vais à ta rencontre.
Il s'arrête de marcher, regarde la montagne qui reflète dans l'eau.
Puis, il repart. Je me souviens des derniers temps. Tu restais enfermé dans ton bureau à écrire ou lire. Tu disais qu'arrivé à un certain âge, la vie ne nous apportait aucune nouvelle joie. Le seul plaisir que l'on avait, c'était de faire revivre les joies passées, relivre un livre que l'on avait aimé ou voir un film. La vie présente nous apparaissait moins forte que nos souvenirs. C'est pour cela que tu t'enfermais. C'était pour pouvoir vivre tes souvenirs, revivre le temps où tu étais jeune. Toi qui menais une vie si banale, si taciturne, comment as-tu pu écrire des livres si pleins de fougue? Qu'aurais-tu pensé de ce mois de mai? De retourner à son point de départ. Il a fini le tour du lac. Il décide de rentrer se reposer un peu dans sa chambre. Arrivé dans sa chambre, il est surpris de voir un jeune homme assis sur le rebord du lit en train de feuilleter un de ses livres qu'il avait mis sur la table de nuit. Le jeune homme sursaute et se lève. «
Excusez-moi, monsieur, je suis venu déposer une nouvelle serviette de bain. Je suis le fils de l'aubergiste. Lorsque je suis rentré, j'ai vu les livres sur la table de nuit. Alors je les ai feuilletés. Vous savez, j'ai les mêmes. Ils sont bien. »
Anthony s'approche. Et regarde le jeune homme. Il doit avoir dans les 18 ans, taille normale, blond, visage agréable, avec les yeux marrons. Anthony ne parle toujours pas. Le jeune se sent gêné.
J'aime beaucoup ces livres. Je trouve qu'ils sont formidables. L'auteur doit être un sacré monsieur.
C'était mon père.
Oui, c'était mon père. Il est mort.
Le jeune homme est surpris.
Votre père? Quelle chance vous devez avoir. Moi, j'aimerais faire comme les héros de ces livres. Tout quitter, partir comme ça, sans rien, j'en ai assez de cette vie. Pourtant le paysage est magnifique. Le jeune homme fait deux pas vers la sortie et se retourne. La montagne toute l'année s'alasse. Le monde semble s'arrêter ici, alors qu'ailleurs tout bouge. Excusez-moi, je dois partir. Anthony le voit s'éloigner. Il se dit qu'il a la silhouette de ses 18 ans. Prévient le directeur de l'hôtel qui s'en va dans l'après-midi. Il remonte dans sa chambre, prépare les bagages et sonne pour qu'on les lui descende. C'est le fils de l'aubergiste qui vient les chercher. « Alors, vous partez, monsieur ? Écoutez, emmenez-moi, je vous en prie. »« Je ne peux pas, que dirait ta famille ?»« Je suis majeur, monsieur. Je fais plus jeune que mon âge, mais regardez. » Il lui tend sa carte d'identité. Yves Blanc, 21 ans. Anthony hausse les épaules en lui rendant sa carte. Je ne sais même pas où je vais aller. Et puis j'ai quitté femme et enfants. Ce n'est pas pour voyager avec un inconnu. Nous ne connaissons même pas. Allez, descends mes bagages. Je vais les mettre dans la voiture. Et je pars après déjeuner. Une fois que le repas est fini, il monte dans sa voiture et part. Il est gris, il commence à faire de l'orage. Arrivé à un croisement de la route principale, il y a le jeune assis sur le rebord de la route. Il est en jean et sac de voyage. Anthony s'arrête. Il s'approche et se baisse vers la vitre. Vous m'emmenez ? Anthony réfléchit un moment, puis ouvre la portière. Il roule durant des heures sans rien se dire. Anthony réfléchit. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je ne sais même pas où je vais aller. Décide d'aller en Sicile, si les frontières ne sont pas fermées. La Sicile, ça te va ? Yves est fou de joie, l'italien c'est la langue qu'il connaît bien. Je connais là-bas un vieux noble qui habite un palais au bord de la mer, tu verras, c'est formidable.
passe la frontière sans encombre et file vers la Sicile. Anthony et Yves, au fil des jours, ont sympathisé. Anthony le trouve bien et sérieux. Ils arrivent enfin à Palerme. Le palais du comte de Cordeau se trouve au milieu d'un grand parc. Anthony a télégraphié qu'il venait passer quelques jours avec un ami. La voiture longe une longue allée boisée et arrive devant le perron de la maison. Un vieux domestique les attend pour prendre les bagages. Ils sortent de voiture.
Bonjour monsieur. Monsieur le comte vous attend dans sa bibliothèque, si vous voulez me suivre.
Yves est surpris d'entendre parler français. Anthony lui explique que le comte Cordeau n'emploie que des gens qui savent parler le français couramment, car sa première femme était une Française et malgré qu'elle soit morte, il exige que l'on parle toujours le français autour de lui. Ils suivent le domestique qui les mène de pièce en pièce. Elles sont dans l'obscurité, l'on n'a pas ouvert les volets de la journée pour éviter que la chaleur ne rentre. Les pièces sont immenses. Le domestique frappe à une porte. Il les fait rentrer. À leur arrivée, le comte qui était assis à son bureau se lève. C'est un petit homme maigre, avec très peu de cheveux blancs, mais là une espèce barbe grise. Son visage est tout ridé. Il est habillé d'un costume noir. Il a les poumons malades, le cancer. Il fumait trop. Il refuse d'aller à l'hôpital, il aime mieux souffrir chez lui. Le comte est un vieil ami de la famille d'Anthony. « Soyez le bienvenu, monsieur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis très heureux de vous recevoir. » Anthony s'avance d'un pas. Moi aussi, je suis très heureux de vous revoir, monsieur le comte. Si vous permettez, je vous présente un jeune ami de voyage, monsieur Yves Blanc. Le comte s'avance pour lui serrer la main. Il boite légèrement et se sert d'une canne pour marcher. Des jours heureux tous les trois. Ils ne sortent guère du palais et du parc. Le soir, le comte leur dit des poèmes qu'il a écrits lorsqu'il était jeune homme. Après 15 jours, Yves s'ennuie et aimerait partir, mais Anthony lui dit d'attendre un peu, car le comte veut leur présenter une de ses petites filleules. Elle arrive enfin. C'est une jeune fille de 15 ans, la fille d'un des métayers du comte. Il la parraine et lui fait poursuivre ses études dans un pensionnat de la ville. Elle est brune, mince, un visage juvénile avec un tout petit sourire espiègle. Le comte est allé la chercher en voiture. Lorsqu'ils sont arrivés, elle a été présentée à Anthony et Yves. Yves est tout de suite séduit par cette jeune fille brune. Elle est plutôt gênée par sa présence. Elle n'a pas l'habitude des garçons. Dès la première soirée, le comte leur propose de jouer aux dames ensemble. Ils acceptent. Cela leur permet de faire connaissance. Troisième jour, Anthony s'aperçoit qu'Yves l'a complètement oublié. La jeune fille a entièrement occupé ses pensées. Yves passe de longues heures à discuter dans le jardin avec la jeune fille. Elle, Elle est fascinée par Yves. Un jour, ils décident d'aller passer l'après-midi à la plage tous les deux. Elle connaît un coin de plage déserte. Ils y vont à vélo. Arrivé, chacun se met derrière un rocher pour se changer. Lorsqu'il la voit en maillot de bain de pièces, il est surpris par ses formes qui sont plus féminines qu'il le pensait. Elle, elle le trouve plus gamin qu'avec ses vêtements. Il est vrai qu'avec son corps blanc et lisse sans poils, il fait guère homme. Le soleil, la mer, cette jeune fille qui court ou nage autour de lui, excite de plus en plus Yves. Elle aussi se sent tout excitée, car elle sent pour la première fois qu'un garçon la désire. Elle ne sait pas exactement ce que c'est, mais son instinct la tire vers lui. Journée, ils sont allongés tous les deux sur la plage. Ils regardent le soleil rougir descendre dans la mer. Ils se sentent tous les deux paisibles et un peu fatigués. Elle sent la chaleur du jeune homme près d'elle. Lui sent la douceur de sa peau près de lui. Son désir ne s'est pas évanoui malgré la fatigue. Quelque chose lui dit que ce serait l'endroit rêvé. Il pense que c'est comme dans les films. Il la regarde. Elle a les yeux mi-clos. Il se penche vers elle et l'embrasse. Surprise, elle se débat, lui apporte de lui faire mal en la forçant d'accepter ses lèvres. Il la lâche. Elle se lève, lui aussi. Ils ramassent leurs serviettes de bain, puis ils prennent leur vélo. Elle lui dit « Pardonne-moi, je suis stupide. Si tu veux, tu peux m'embrasser. » Elle arrête son vélo, lui aussi. Ils s'assoient tous les deux sur le talus. Ils ne savent pas comment faire. Il s'approche vers elle, la prend dans ses bras et l'allonge dans l'herbe, mais s'y est pris d'une façon tellement gauche que cela la fait rire et l'empêche qu'il l'embrasse. Ils repeignent leur vélo en riant tous les deux. Cette première journée les a rendus plus intimes. Le mois de mai tire à sa fin, le mois de mai des étudiants et des contestataires.
Les ambulances suivent derrière.
Ça va ?
Ça va ?
La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse, car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés.
Les manifestants sont remontés, chargés, sporadiquement, tandis que le corridor fait de même. La place de la Sorbonne est envahie par les gars. Voilà. Alors, dégagement à la soufflante des manifestants. Ce n'est qu'un début, continuons le combat et les grenades explosent.
Antonu surveille les allées et venues d'Yves avec Grazella et il tient compagnie au comte. Grazella et Yves sont retournés à la plage et cette fois elle s'est laissée embrasser, cela lui a plu. Yves est vraiment amoureux, elle pas vraiment. Un jour elle lui dit « Écoute, j'en ai assez de cette vie. Je n'ai pas quitté le pensionnat pour vivre enfermé avec un vieux dans un vieux palais. Je veux partir, moi, voir du monde, vivre. »
Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. Par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler.
Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Monsieur Malraux pense comme moi.
Distribue des fleurs d'ailleurs aux forces de police qui actuellement font mouvement vers la place de la Sorbonne. Je vois une jeune fille qui se dirige vers un quart de police pour... Et les policiers qui accrochent d'ailleurs les fleurs aux fenêtres des cars. Pour l'instant, pas de tension, mais je viens d'apprendre que le comité d'occupation de la Sorbonne refusait de laisser la Sorbonne aux mains des policiers.
Le 11 juin.
Les grenades pleuvent maintenant en plein milieu des manifestants. Juste à une vingtaine de mètres de moi. Il y a une panique et je pense que les forces de charge. Voilà, tout le monde court et j'essaye de me plaquer contre le mur autant que je peux. Une bombe soufflante. Violente. Alors là, on peut parler de guerre de rue. Je n'ai jamais vu ça au Vietnam, je n'ai jamais vu ça en Algérie, c'est quelque chose d'absolument inouï. Actuellement, le carrefour de la Sorbonne est vraiment le théâtre d'un lieu de combat et de guerre, il n'y a pas d'autre moyen, les ambulances ne peuvent plus passer, les gars tiennent maintenant la barricade. Ça se rapproche de plus en plus, nous sommes maintenant à quelques mètres des forces de l'ordre qui attaquent avec des grenades soufflantes et à fragmentation et je vois une jeune fille de 17 ans qui est juste devant moi, debout sur la barricade, sans rien, sans casque.
Mais se termine et ni toi ni moi n'avons fait quelque chose. Notre vie n'a pas vraiment changé. Oui, je sais, tu es parti en quittant ta famille. Mais je suis sûr que tu es resté toujours le même. Tu n'as pas changé à l'intérieur de toi. Le monde a bougé et nous, nous sommes restés comme des vieux. Si tu veux que nous partions, nous irons à Rome. Nous dirons que je veux passer quelques jours chez ma tante qui y habite. Yves n'est pas très emballé par cette proposition. Il aimerait mieux que lui et elle restât comme ils sont, ici, avec Anthony et le comte. Graziella le voit, elle est furieuse. Si tu me laisses partir seule, je saurai que tu ne m'aimes pas et que tu es comme ces vieux qui n'ont rien compris aux événements. Yves lui prend la main et lui dit « D'accord, je vais prévenir Anthony de notre départ. » Anthony est assis sur une chaise de jardin sur la terrasse. Il voit courir à lui Yves. « Anthony, j'ai quelque chose à te dire. » « Voilà, Graziella aimerait rendre visite à sa tante à Rome. Comme elle est mineure, elle aimerait que je l'accompagne. » Anthony est surpris. Cela l'attriste beaucoup de voir qu'Yves va le quitter. Il s'est habitué à sa présence et aurait souhaité continuer sa route avec lui. « Tu pars ? Que vas-tu faire ? Rien ? Je n'en sais rien. J'y vais, c'est tout. » Anthony se lève. « Non, tu t'en vas, parce que tu veux aller voir le monde. Ou peut-être, toi aussi, tu veux aller faire ton mets, comme mon fils le disait. Mais malheureusement, c'est trop tard, mon petit. Tu veux t'engager alors que la guerre est finie. Il fallait y penser plus tôt. » Cela met en colère Yves. « Si je n'ai pas fait mon mets, comme vous dites, ce n'est pas de ma faute. Moi, je vous ai souvi. Je ne croyais pas qu'on allait vivre ici. Je ne croyais pas. Que le fils de l'illustre auteur du lac de Montrion cherchait à se terrer dans un coin perdu pendant que l'Europe est à feu et à sang. » Anthony s'avance d'un pas furieux. « Je ne veux pas que tu me parles de cette façon, mon petit. Je ne suis pas votre petit. Je pars. Je ne veux pas m'encrouter ici. » Il se retourne. Anthony le fait pivoter sur lui-même. Il lui secoue les épaules. Non, tu ne partiras pas. Lâchez-moi, espèce de vieux fou. Il se dégage d'un geste des deux mains. La rapidité du geste fait perdre l'équilibre à Anthony. Yves la lui fait perdre définitivement par un coup de poing au menton. Anthony tombe à la renverse. Sa tête se cogne à une pierre qui était au sol. Il ne se relève plus. Il se penche vers lui, il le secoue. Pas de réaction. Merde ! Il est mort ! Il se lève et court dans la maison. Monte les étages. Va dans la chambre d'Anthony, ouvre les tiroirs de la commode, armoire, puis celui de la table de nuit. Le portefeuille, prend les billets et sort de la chambre. Il va dans celle de Graziella. Elle est allongée sur son lit. Viens, il faut foutre le camp en vitesse d'ici. Elle est surprise, il la soulève et l'entraîne en courant hors du palais. La main et suivent la route. Peux-tu me dire ce qui se passe ?
J'ai tué Anthony. En disant cela, ils ne se sont pas arrêtés de marcher. Casella est surprise. Elle ne sait quoi penser.
Après un quart d'heure, il lui raconte l'affaire. Qu'allons-nous faire maintenant ?
Nous allons nous cacher dans une ville, puis partir, quitter l'Italie.
Ils ont marché durant des heures toute l'après-midi. Ils sont épuisés. La nuit commence à tomber. Ils sont arrêtés dans une petite ville pour se restaurer. Ils vont dans un petit café. Puis repartent et couchent au bord de la route. Avant de quitter la Sicile, Casella est déprimé et en a assez. Écoute, Vive. Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on se rende et expliquer tout à la police. De toute façon, tu n'as pas tué exprès. Yves est furieux. Écoute, toi tu fais ce que tu veux. Moi je continue. Et il monte sur le bateau. Elle le regarde. Elle attend que le bateau parte. Puis s'en va. Arrivé en Rome sans encombre. Il veut savoir si on parle dans les journaux de la mort d'Anthony. Dans un kiosque, il achète un journal et va le lire dans un jardin public. Non, rien. C'est vrai que ça fait déjà 15 jours. Et qu'est devenu Graziella ? Il ne s'en inquiète guère. Son amour a disparu avec la fille. Tout à coup, dans la rubrique « Nouvelle étrangère », il lit « France ». On ne sait toujours pas par qui et pourquoi Madame Angèle Juniet et son fils Marc ont été assassinés. Le mari de Madame Angèle Juniet, M. Anthony Juniet, fils du célèbre écrivain, a été retrouvé assassiné en Sicile dans la villa du comte de Cordeaux. Il aurait été assassiné par un jeune Français de 21 ans, Yves Blanc, domicilié en Haute-Savoie, lac de Montrion. Le comte de Cordeaux, de sa fenêtre, assistait à l'accident, mais il n'a rien pu faire. Ils se disputaient, se sont battus, Anthony est tombé et ne s'est plus relevé. Puis Yves Blanc s'est sauvé avec une jeune mineure. Ils sont toujours en cabale. Étrange affaire que cette affaire Juniet. La femme et le fils morts par balle un 7-65 dans leur domicile lyonnais et le père mort d'une bagarre avec un jeune homme en Sicile. La police continue son enquête. Yves se souvient avoir vu un revolver dans les bagages d'Anthony.
Et un garçon s'effondre. C'est ce
c'est quelque chose d'absolument... Ce n'est plus... C'est l'insurrection. À la soufflante maintenant, je ne sais pas comment on pourra tenir longtemps là. Je me trouve juste derrière la barricade, je ne sais pas comment je pourrais. Les nuages de chlore arrivent maintenant et vraiment... Il est très difficile, très très difficile de parler au micro. Hein.
La cloche de la Sorbonne, il est 14h20 dans la nuit, au son du CRSSS, proteste contre l'encerclement du quartier de la Sorbonne. Merci.
Il est 6h35 dans la cour de la Sorbonne et vous pouvez entendre les grenades explosives, les grenades offensives qui explosent encore maintenant, alors que certains postes périphériques n'ont pas des combats au quartier latin. Actuellement encore charge rue de la Sorbonne, les manifestants refluent dans la cour de la Sorbonne. Et vous voyez... Vous pouvez entendre que là, les combats ne sont pas terminés du tout. Le quartier est encerclé par de très importantes forces de police qui sont renforcées encore vers 4h du matin. Également, dans l'infirmerie, ce qui a causé un grand nombre de blessés, 5 à ce que m'a dit le médecin de l'infirmerie.
Il y a un mec qui est touché là-bas.
Il y a un type touché à l'entrée. Oh non, mais ça devient de la boucherie, hein.
Sur les toits en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est que si une grenade tombe là où vous êtes, vous risquez de faire sauter pas mal de choses. Alors évitez de vous y promener.
Après une violente attaque à la grenade offensive rue de la Sorbonne, rue Saint-Jacques et même dans les cours intérieures et sur les étages, premier étage en particulier de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Sorbonne, la sonorisation de la Sorbonne diffuse un chant révolutionnaire.
Le 16 juin.
Il est 21h15 et un pompier actuellement monte le long de la rampe de la Croix et est actuellement 2 mètres du drapeau rouge de la Sorbonne. C'est littéral. Et il l'a arraché, il est exactement 21h16. Quelques cris dans la foule. Les forces de police étant très importantes, pas actuellement de réaction. À vous.
Pour sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Fièvre en mai. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.